Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline. Avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous savoir à mes côtés sur le cargo de Radio Caroline qui, après avoir sillonné la mer du Nord, la Manche, puis la mer Celtique, s'avance en ce moment dans le canal de Bristol, prêt à accoster dans cette ville côtière du sud-ouest de l'Angleterre, portée par des vents musicaux novateurs dont le souffle enivra le Royaume-Uni et le vieux continent dès le début des années 90. Rappelez-vous, en février 1991, s'infiltre et enfle sur les ondes FM et à travers les enceintes une mélodie soyeuse, ample et délectable qui devient instantanément entêtante, Unfinished Sympathy, prodiguée par une formation nommée Massive Attack. Non content de placer ce titre dans le top 15 de plusieurs pays européens, Massive Attack épingle Bristol, l'une des villes les plus multiculturelles du Royaume-Uni, au centre d'une nouvelle carte musicale. Sorti 2 mois plus tard, l'album de Massive Attack, Blue Lines, sera considéré comme l'un des disques fondateurs du trip-hop, le son de Bristol, gorgé de beats lents, de basses profondes et de mélodies captivantes, qui bénéficie d'une production au cordeau et de collaborations marquantes, parmi lesquelles Néné Chéri, on y reviendra. Dès lors, la ville devient un laboratoire à l'avant-garde des sonorités nouvelles, autant qu'un lieu d'expérimentation permanente, emmené par des musiciens à l'inspiration très éclectique, qui vont étoffer, enrichir ce Bristol Sound, ce trip-hop de textures et de parfums capitaux et parfois sombres, souvent englués dans la mélancolie et dopés de rythmes puissants.
Pour des raisons de droit d'auteur, ce podcast ne contient que des extraits musicaux. Retrouvez la version intégrale sur Ovio.
Le cœur de Londres a battu au rythme des Swinging 60s, dans les années 60 donc, alors que les Beatles et quelques autres déferlaient depuis Liverpool. Au début des années 80, Sheffield exportera Human League, Cabaret Voltaire ou Heaven 17, quand, à la même époque, Joy Division et Factory Records graveront le nom de Manchester sur les pochettes les plus prisées. Mais au début des années 90, c'est Bristol qui façonne et transforme le paysage musical anglais avec et grâce à Massive Attack, mais aussi à celles et ceux qui les ont côtoyés ou s'en sont inspirés, comme Tricky et Portishead. Une ville dont l'histoire repose pourtant sur un passé sanglant. Car, comme d'autres en Europe, sur la façade ouest, Bristol fut, au XVIIe siècle, un port majeur de la traite atlantique, c'est-à-dire de la traite négrière occidentale, ce commerce forcé d'êtres humains, orchestré par les puissances européennes, qui déporteront des millions d'Africains vers les Amériques pour travailler dans les plantations. Et ce, au travers d'un commerce triangulaire qui fonctionnait de la façon suivante. Des navires chargés d'étoffes et d'armes rejoignaient les côtes africaines pour embarqués de force dans leur cale des hommes, des enfants et des femmes, avant que les navires ne fassent voile vers les Caraïbes, le sud-est des États-Unis et le Brésil. Le taux de mortalité de ces voyages était d'environ 5%, 30% même sur certains bateaux. Sur place, les Africains étaient échangés contre les matières premières produites dans ces plantations esclavagistes, sucre, café, cacao, coton, tabac, denrées à leur tour revendues dans les ports européens. Pour ce qui concerne Bristol, plus de 2000 expéditions chargées au total de 500 000 esclaves ont été organisées entre 1698 et 1807, date de l'abolition de l'esclavage. Un passé dont la ville possède encore nombre de traces, comme ses maisons cossues, propriété d'anciens négriers, mais aussi une salle de concert nommée jusqu'il y a peu Colston Hall, du nom d'Edward Colston, un marchand qui, au XVIIe siècle, équipa la ville en écoles et en hôpitaux grâce à la fortune amassée via le trafic d'esclaves. Une salle où se sont produits les Beatles, David Bowie, Elton John, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong ou Bob Dylan, mais jamais, lorsqu'elle portait ce nom, Massive Attack, qui a toujours refusé d'y jouer ou même de la fréquenter. En 2017, alors que ce lieu fermait pour des travaux de transformation qui allaient durer 6 ans, le Bristol Music Trust, l'association caritative qui gère cette salle de spectacle, annonçait qu'elle serait rebaptisée lors de sa réouverture. Sa directrice générale, Louise Mitchell, qualifiant le nom Coldstone de marque toxique. Une initiative alors saluée par Paul Stephenson, un militant de longue date pour les droits civiques de la communauté afro-caribéenne britannique de Bristol et qui par ailleurs avait mené le boycott des bus de cette ville dans les années 60 pour protester contre l'interdiction faite aux Noirs et aux Asiatiques de travailler pour la Bristol Omnibus Company. Depuis sa réouverture en 2023, la fameuse salle de spectacle de Bristol, qui porta jadis le nom d'un riche négrier, a désormais pour appellation Bristol Beacon, la balise de Bristol. Entre-temps, le 7 juin 2020, la statue de ce vendeur d'esclaves, Edward Coldstone, qui trônait au centre de la ville, a été déboulonnée, vandalisée et jetée dans le port de Bristol lors des manifestations liées au mouvement Black Lives Matter dans la foulée de la mort de George Floyd aux États-Unis. La statue sera repêchée 4 jours plus tard et placée dans une réserve par la mairie de Bristol. Exposée avec ses graffitis dans un musée durant l'été 2021, elle y est restée de façon permanente à partir de mars 2024. Les 4 personnes ayant participé au déboulonnage ont été acquittées des accusations de dégradation de biens en janvier 2022. Enfin, le 17 avril 2025, une nouvelle plaque était apposée sur le socle désormais vide, plaque qui supprimait la mention de Coldstone comme bienfaiteur de la ville et expliquait plutôt le retrait de la statue en raison de son implication dans la traite transatlantique des esclaves. Aujourd'hui, la communauté noire de Bristol, qui représente 5% de la population, est en petite partie constituée par les descendants de certains esclaves qui avaient été renvoyés en Europe, mais surtout de Caribéens, majoritairement jamaïcains, arrivés massivement au lendemain de la Seconde Guerre et encouragés à le faire par les gouvernements anglais de l'époque pour pallier la pénurie de main-d'œuvre suite à la Seconde Guerre et reconstruire le centre de la ville détruit durant le Blitz. Un flux migratoire auquel le Commonwealth Immigrants Act mettra un terme au début des années 60. Le quartier de Saint-Paul, devenu un véritable ghetto ethnique caribéen, concentrera dès lors une population déclassée, marquée par le chômage, la précarité et la pauvreté. D'ailleurs, au cours des années 80, le quartier de Saint-Paul s'enflammera et des émeutes éclateront, initiées par les jeunes immigrés harcelés par la police, comme le racontait le JT de la RTBF le 16 septembre 1986.
À nouveau, la violence à Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre. Ça fait déjà 2 nuits que la police et les émeutiers s'affrontent dans le quartier Saint-Paul, un quartier à forte population noire et pauvre. En 1980, déjà dans ce même quartier, il y avait eu des émeutes très violentes, émeutes qui s'étaient répétées dans d'autres villes en 1981 et en 85. L'an dernier, ces affrontements avaient fait 4 morts.
Pour la 2e nuit consécutive à Bristol, des bandes de jeunes gens se sont heurtées aux forces de police, jetant pavés et cocktails Molotov et mettant le feu à des voitures. Des centaines de policiers en tenue de combat avaient bouclé le quartier Saint-Paul, où vit une importante communauté noire et où de graves émeutes avaient déjà éclaté en 1980. 2 personnes ont été interpellées et 2 policiers ont été soignés pour des blessures à la tête. Les émeutiers se sont dispersés vers 2h du matin. Lors de la nuit précédente, de jeudi à vendredi, il y avait eu 14 blessés et 80 interpellations.
Heureusement, la musique va bientôt offrir aux jeunes pousses de Bristol, noires et blanches réunies, une prodigieuse échappatoire. Et tout va commencer à la fin des années 70 avec The Pop Group, une formation blanche, certes, mais politiquement engagée, pionnière du mouvement post-punk. Chose rare, ce pop group fera la une du New Musical Express, fameux magazine hebdomadaire musical anglais, bien sûr, sur la seule base de ses prestations scéniques, avant même l'enregistrement d'un premier single qui, lui, sortira en mars 1979 et s'intitulera She's Beyond Good and Evil. Un mois plus tard, en avril 79, The Pop Group délivrera son premier album Y, donc Y, mais qui se prononce comme Pourquoi en anglais, mélange sophistiqué de funk, de dub, de punk et de free jazz, suivi en novembre du single We Are All Prostitutes, puis en mars 1980 d'un second album For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder. des titres bien engagés, on l'a compris. Mais au même moment, leur label Rough Trade sortira un single sur lequel on retrouve sur l'une des faces un titre du groupe féminin The Slits et sur l'autre un morceau de ce pop group. Lesquels, à cette occasion, seront invités à la RTBF dans Génération 80, émission télé dont Fabienne Vandemerche sera bien évidemment la présentatrice emblématique, mais qui avait été lancée et un temps co-présentée par Francis Beutars, que l'on entend donc dans cette archive dérouler le sommaire de Génération 80 après quelques secondes de générique.
Bonjour, deux groupes en direct sur le plateau de Génération 80 ce samedi, les Slits et Pop Group. C'est la première fois qu'ils participent à une émission de télévision en Belgique. Nous les verrons dans un instant. Cinq films à l'affiche de Génération 80, Une femme disparaît, Le vampire de ces dames, C'était demain, Movie, Movie et C'est pas moi, c'est lui. Avec Marc-Henri Jeanne, nous parlerons de la normalisation des jeunes. Le reportage sera consacré au métier d'instituteur maternel, un métier que l'on a destiné longtemps aux femmes. Enfin, notre dessin animé, La voiture de demain, mais tout de suite en direct, Pop Group.
Et ça se termine sur une vraie fausse bagarre entre les musiciens sur le plateau du studio 2 de la RTBF dans cette émission Génération 80. Séquence que vous pouvez retrouver sur le net d'ailleurs sous le titre Pop Group on Belgium TV 1980. Les membres bristoliens de ce band formeront ensuite d'autres groupes dont, entre 1980 et 1983, Rip Rick plus Panic, qui signera avec Virgin, avec au chant une jeune Suédoise exilée sur les terres anglaises, Néné Chéri. Rip Rip Panic marche sur une fine ligne entre le gaspillage indiscipliné et l'aplomb commercial ingénieux, écrira le New Musical Express.
Radio Caroline. Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Retour à Bristol. En 1983, un collectif de musiciens, de DJ et de graphistes nommé Wild Bunch, qui s'est constitué autour d'eux, ce sont leurs surnoms 3D et Daddy J, futurs membres de Massive Attack, se lance dans l'organisation de fêtes au sein du quartier Saint-Paul. Des événements dansants inspirés par la culture des sound systems jamaïcains où, grâce à deux platines, une table de mixage et de grosses enceintes, la musique est diffusée dans des zones urbaines défavorisées. Comme le note Melissa Shemam dans son livre En dehors de la zone de confort de Massive Attack à Banksy, c'est sur des vinyles de hip-hop importés de New York que l'on fait danser la jeunesse locale, quelle que soit sa couleur de peau. Entre ces fêtes, les soirées du Dugout, club légendaire de la ville, et le carnaval de Saint-Paul, les sonorités se mélangent, le brassage des influences s'opère. Et sur le modèle des cultures urbaines nord-américaines, les graffeurs impriment leur marque sur les murs de la ville. Il y a eu passion, pulsion, émulation, se rappelle un DJ. The Wild Bunch, ce collectif, a construit un pont entre les musiciens noirs et blancs. Mais au milieu des années 80, le collectif se disloque et le Dugout ferme alors que les tensions sociales et raciales génèrent de nouvelles émeutes à Saint-Paul en 1986, comme on l'a vu et entendu. Il n'empêche, un nouveau chapitre musical déterminant, fondamental, va bientôt s'ouvrir. Ainsi, en 1988, quatre ex-membres de ce collectif, Wild Bunch, 3D, Mushroom, Daddy G et Tricky, forment un groupe nommé Massive Attack. Aucun des membres ne joue d'un instrument, mais doté d'une grande culture musicale, branché sur les nouvelles sonorités urbaines et habile sampleur, ils se disent que les machines peuvent remplacer les instruments et se lancent dans diverses expérimentations qui mèneront à un premier titre non commercialisé. Parallèlement, deux membres de Massive Attack, 3D et Mushroom, participeront, chacun de leur côté, à l'enregistrement et la composition de certaines pistes du premier album de Néné Chéri, et notamment sur Buffalo Stance, qui deviendra un tube mondial en 1988. Dans la foulée, au printemps 1989, Néné Chéri fera un carton en Europe avec Man Child, un titre qu'elle a coécrit avec 3D de Massive Attack. Deux membres de Massive Attack ont donc contribué au succès international de Néné Chéri et Chéri va leur rendre l'appareil en aidant Massive Attack à enregistrer son premier album Blue Lines, le groupe ayant été entre-temps rejoint par la jeune chanteuse Shara Nelson, issue elle aussi de la scène festive de Saint-Paul. Le compagnon de Néné Chéri œuvrera comme producteur exécutif du disque pour ensuite devenir le premier manager du groupe. Le couple fournit donc un soutien financier, mais aussi logistique à Massive Attack, puisque l'album sera en partie enregistré chez eux, comme s'en rappellera Daily G. Nous, on était des fainéants de Bristol, c'est Néné Chéri qui nous a secoués et nous a fait entrer en studio. On a enregistré pas mal de choses chez elle d'ailleurs, et même dans la chambre de son bébé. Je me rappelle, ça empestait pendant des mois, avant qu'on trouve une couche sale derrière un radiateur. À l'époque, je mixais encore dans les clubs, mais ce qu'on essayait de faire, c'était de créer une musique de danse pour l'esprit, pas pour les pieds. Je pense que c'est notre album le plus abouti, on était au top de notre forme à cette époque. Considéré effectivement comme un chef-d'œuvre, Blue Lines sera dans les bacs en avril 1991, le premier album officiel, entre guillemets, de Trip Hop. Comme l'écrira un rock critique capé, c'est l'album le plus élégant, le plus mortel, le plus urbain et le plus déroutant sorti cette année. Après Blue Lines, les frontières séparant la soul, le funk, le reggae, la house, le classique, le hip-hop et le space rock seront définitivement floues. Un disque précédé deux mois plus tôt par le single Unfinished Sympathy. Composé notamment de samples, ce sont cependant de vraies cordes enregistrées dans les studios d'Abbey Road qui seront incorporées après des essais infructueux au synthétiseur. Un titre qui grimpera au sommet des charts dans toute l'Europe. Mais alors que la guerre du Golfe est à son climax et que la coalition internationale vient d'entamer des bombardements sur l'Irak afin que Saddam Hussein libère le Koweït, le nom de Massive Attack est non grata à la BBC. Le groupe se renommant dès lors provisoirement Massive pour ne pas être banni des ondes publiques anglaises. Au-delà de la musique et dans la lignée du collectif dont il est issu, l'univers de Massive Attack se prolongera en street art, pochette d'albums et art visuel. Seul lui manquera la légitimité scénique, et pour cause ses membres ne sont pas musiciens à proprement parler, que compenseront des vidéos qui évoqueront l'ambiance underground, électronique et parfois angoissante de leur composition, la scène devenant dès lors un nouvel espace créatif où s'entremêlent images, jeux de lumière et punchlines. Pour son deuxième album, distribué en septembre 1994, Massive Attack, qu'a quitté la chanteuse Sharon Nelson, sollicitera Tracy Thorn du groupe Everything But The Girl, laquelle participera à l'écriture et au chant de deux morceaux, dont le sublime et classique Protection. Peu après la sortie du deuxième album de Massive Attack, Tricky quittera à son tour le groupe dans un climat de tension, estimant n'avoir pas reçu la reconnaissance qu'il méritait pour sa contribution au son du band. Entre autres frustrations, il n'était pas parvenu à faire accepter au groupe un morceau de sa composition titré Aftermath et chanté par une jeune fille prénommée Martina. Martina, que Tricky avait rencontrée en 1991 alors qu'elle avait 15 ans. Il l'avait vue chanter à voix basse contre un mur près de chez lui. Quelques semaines plus tard, se souviendra la jeune fille, je suis allé chez lui avec des amis. On avait bu du cidre après nos examens, on a frappé à sa porte, mais il n'était pas là. C'est alors qu'un gars qui habitait là est venu nous voir. Il s'agissait, se dit entre parenthèses, d'un membre du pop group dont nous parlions tout à l'heure. Il nous a dit, ouais, c'est bien chez Tricky ici, allez, entrez par la fenêtre. Tricky écrira donc Aftermath pour la voix suave de la belle Martina. Un titre qu'il inclura dans son premier album solo, Max in Quain, enregistré en 1994 et dont la jeune fille sera la principale vocaliste. L'album de Tricky éblouira la critique, le Melody Maker, décrivant sa musique comme captivante, originale, sublime, les paroles à ce point tissées dans le son qu'elles en deviennent inséparables. Quant au Los Angeles Times, il évoquera une combinaison de musique ambiante onirique et de mordant hip-hop, donnant à ses paysages sonores sur la vie contemporaine un aspect très séduisant et provocateur. Quant à Shara Nelson, qui, on l'a dit, a elle aussi quitté Massive Attack, elle a déjà sorti un premier album, non sans succès, et dont elle offrira le titre Inside Out, en live, à l'émission de la RTBF Intérieure Nuit, prestation intimiste filmée à Bruxelles, au creux du bar L'Archiduc. Une prestation unplugged, si je puis dire, de l'ex-chanteuse de Massive Attack, Shara Nelson, à l'Archiduc en mars 1994 pour Intérieure Nuit, émission créée par la tellement regrettée Anne Isler. Si Shara s'est musicalement éloignée des feux du trip-hop de Bristol, ceux-ci sont toujours vifs. D'ailleurs, au cours de l'été 94, ils embraseront les ondes des mélopées du premier album de Portishead, Dummy, disque iconique de cette mouvance. Formé en 1991, mais dont le premier album n'est sorti que 3 ans plus tard, Portishead est un groupe dont le noyau dur se compose de 3 membres d'âge et d'horizons musicaux différents. Jeff Barrow, né en 1971, Beth Gibbons, née en 1965, et Adrian Utley, né en 1957. Originaire du sud-ouest de l'Angleterre, c'est d'ailleurs une petite ville côtière située à une vingtaine de kilomètres de Bristol, en face du Pays de Galles, que Jeff emprunte son nom, Portishead. Jeff Barrow, l'âme du groupe, y a vécu aux côtés de sa mère divorcée. Après avoir œuvré adolescent comme batteur dans différents petits groupes rock, il s'éprendra ensuite du hip-hop et de ses platines à la fin des années 80. Travaillant comme assistant au studio Coach House de Bristol au début des années 90, il y fréquentera Massive Attack et donc Tricky durant l'enregistrement de Blue Lines, le groupe lui accordant gentiment du temps de studio pour développer ses propres idées. C'est ainsi que Jeff Barrow composera et coproduira pour Néné Cherry, encore elle, le morceau Some Days en 1992. À la recherche d'une chanteuse pour enrichir les productions personnelles qu'il commence à élaborer, Jeff Barrow auditionne plusieurs candidates sans succès. Jusqu'à ce que, par le plus grand des hasards, lors d'un atelier collectif organisé par une agence pour l'emploi de Bristol, il ne rencontre Beth Gibbons, qui écume les pubs avec un petit groupe interprétant notamment des reprises de Janis Joplin. Conquis par la voix de Beth, Jeff lui propose de créer ensemble un projet musical. Ce sera donc Portishead. Cherchant ensuite à s'adjoindre les services d'un guitariste, Jeff sollicitera Adrian Utley, qui gravite dans la scène jazz britannique et qu'il a croisé au studio Coach House. Bien qu'il soit nettement plus âgé, la complicité opérera. Dès lors, le trio ainsi constitué s'attellera à la réalisation de premières maquettes avec l'ingénieur du son Dave MacDonald, pilier de la scène de Bristol et souvent considéré comme le 4e membre du groupe. Des démos qui mèneront à un contrat signé en 1993, puis à la confection d'un album, Dummy, qui s'enregistrera durant 18 mois entre 1993 et 1994. Des séances au cours desquelles sera entre autres ciselé Sonum. C'est sans aucun doute un premier album sublime, mais tellement triste, écrira le New Musical Express, qui poursuit. D'un côté, son blues langoureux et lent s'inscrit clairement dans la même veine que ses âmes sœurs Massive Attack et toute la grande famille du trip-hop de Bristol. Mais d'un autre côté, ce sont des paysages lunaires ambiants d'avant-garde, d'une nature farouchement expérimentale. Portishead reviendra et confirmera 3 ans plus tard, en 1997, avec un deuxième album qui portera son nom et dont sera extrait All Mine. Quant à Massive Attack, il clôturera provisoirement en 1998 le fabuleux chapitre qu'a offert au cours de cette décennie le son de Bristol à l'histoire de la musique avec le prodigieux album Mezzanine. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à l'étoiler. Bonne nuit ou belle journée. Radio
Caroline. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.